Introduction. Conscience et l'inconscient. Le mot conscience vient du latin cum scientia, qui signifie accompagné de savoir. Être conscient, c'est penser, agir ou sentir, tout en sachant que l'on pense, que l'on agit ou que l'on sent. C'est une perception ou une connaissance de soi-même, de ses actes et du monde. Le dictionnaire Lalande entend par conscience cette intuition que le sujet a de ses états et de ses actes. L'inconscient, par contre, désigne une dimension de notre psychisme, de notre personnalité. En psychanalyse, l'inconscient renvoie à l'ensemble des représentations et des désirs inaccessibles à la conscience et souvent refoulés par elle. La conscience et l'inconscient ont une histoire, car on est passé de l'une à l'autre dans la manière de concevoir l'homme. Pendant longtemps, la conscience a été synonyme de raison, et l'homme était défini comme un être pensant qui contrôle ses pensées. Mais Freud va révolutionner les choses en introduisant l'inconscient pour redéfinir l'homme et montrer qu'il n'est pas toujours maître de ses pensées. Avec cette redéfinition de l'homme, plusieurs questions s'imposent. La théorie de l'inconscient ne réduit-elle pas l'homme à un être de désir plutôt qu'à un être de raison? Accorder à l'inconscient une place plus grande que celle de la conscience, n'est-ce pas nier la liberté de l'homme et admettre l'absence de raison chez lui? Sartre pense que l'inconscient, tel que formulé par Freud, est une pure fiction. Pour lui, le fait de se réfugier derrière l'inconscient pour ne pas assumer la responsabilité de nos actes relève de la mauvaise foi. Grand 1, la conscience, inconscience psychologique et conscience morale. Il existe plusieurs formes de conscience, mais nous n'en retenons que deux. La conscience est dite morale, lorsque le sujet analyse son acte après l'avoir accompli et lorsqu'il en tire un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. La conscience morale est normative, car c'est un juge intérieur qui permet à l'homme de juger ses actes. C'est avec ce type de conscience que l'homme éprouve des regrets ou des remords. Rousseau la nomme « juge infaillible du bien et du mal ». La conscience est dite psychologique lorsqu'elle rend le sujet capable de percevoir sa propre activité psychique, c'est-à-dire lorsque l'individu est capable de revenir par la pensée sur ce qu'il fait pour mieux analyser son intériorité et pour mieux guider ses actes. Descartes estime que c'est ce retour de la pensée sur elle-même qui permet à l'homme de bien conduire sa raison. En fait, le mot « conscience » a tardivement été utilisé en philosophie. On utilisait des termes comme « pensée »,« raison » ou « esprit ». Et c'est René Descartes qui a été le premier à avoir assimilé la conscience à la raison, à partir de son « cogito ». La conscience liée à la pensée est donc née avec Descartes, lorsque celui-ci a mis en évidence que le « je pense » était le premier principe métaphysique et la condition de toute certitude. Le cogito cartésien est issu du doute hyperbolique qui fait table rase de tout. Mais Descartes s'est rendu à l'évidence qu'il peut douter de tout, sauf qu'il est en train de douter. Étant donné que seule la pensée résiste au doute, Descartes a pu avouer « Même si je doute de tout, je ne peux pas douter que je suis en train de douter », d'où son slogan « Je pense donc, je suis ». Pour lui, l'homme est une « res cogitans », substance ou chose pensante, une substance dont toute la nature ou l'essence n'est que de pensée. Chez Descartes, c'est la conscience qui définit l'homme. Mieux, il affirme que la conscience peut exister sans se rapporter au monde, c'est-à-dire que la pensée s'enferme sur elle-même et se suffit à elle-même. Cela veut dire que pour exister, la conscience n'a pas besoin du monde, d'où le solipsisme qui signifie « solitude de l'esprit ». Le point de vue de Descartes sera analysé par les phénoménologues Husserl, Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre qui reprochent à Descartes son solipsisme. Deux critiques des phénoménologues. Les phénoménologues définissent d'emblée la conscience comme conscience de quelque chose. « Tout cogito », affirme Husserl, « a un cogitatum ». Toute conscience est conscience de quelque chose. La conscience, pour lui, est une intentionnalité, c'est-à-dire une tension vers le monde, un surgissement. Elle n'a rien d'intérieur, elle est pure extériorité. Cela veut dire que la pensée porte toujours sur un objet. Pour Sartre, la conscience se détermine dans le rapport avec autrui. Il écrit dans l'être et le néant. Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. C'est donc à travers le regard de l'autre et de ses jugements que je peux me connaître. Il ajoute, « Percevoir un arbre, c'est s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par de la soie, vers ce qui n'est pas soi. Là-bas, près de l'arbre, est cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse, et je ne peux pas plus me perdre en lui qu'il ne peut se diluer en moi. Hors de lui, hors de moi. » Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl. L'intentionnalité, 1939. La position sartrienne de la conscience s'établit comme une négation du solipsisme cartésien. Pour Sartre, ce n'est pas dans la solitude que l'on prend conscience de soi, mais au cœur du monde et des autres. Le face-à-face cartésien, entre soi et soi-même, serait une illusion. Le solipsisme cartésien sera également critiqué par Pierre Gassendi, qui, dans une objection adressée à Descartes, a dit « Je pense, dites-vous, mais que pensez-vous? Car enfin, toute pensée est pensée de quelque chose. » À cela, Descartes a répondu « Quoi que je pense, pour dire que peu importe ce qu'il pense, l'essentiel est qu'il pense. À travers ces différentes conceptions de la conscience, peut-on vraiment dire que toutes les actions de l'homme sont le fait de la conscience? Autrement dit, peut-on dire que tout l'être de l'homme se réduit à la conscience? Le psychisme de l'homme est-il entièrement conscient? L'homme est-il entièrement maître de ses pensées et actes? C'est précisément cette conception réduisant le psychisme à la conscience qui sera bouleversée avec la découverte de l'inconscient par le fondateur de la psychanalyse, Freud. La conscience semble souvent nous échapper, car elle peut être influencée par ce qui n'est pas elle, le corps pour Spinoza, puis Freud, la société pour Marx ou les instincts les plus vils pour Nietzsche. Marx, Nietzsche et Freud sont surnommés les maîtres du soupçon, parce que chacun soupçonne que derrière toute action humaine, il y a un motif inconnu qui fait agir l'homme à son insu. Ces trois philosophes vont faire le procès de la conscience, et montrer que la conscience de soi ne correspond pas à la connaissance de soi. Selon Spinoza, la conscience de soi s'apparente à une illusion de connaissance. Autrement dit, l'homme se trompe en pensant être maître de ses actes. D'après Nietzsche, la conscience est la dernière et la plus tardive évolution de la vie organique, et par conséquent, ce qu'il y a de moins accompli et de plus fragile en elle, le gai savoir. Il ruine la primauté de la conscience posée par Descartes et estime qu'il serait illusoire de trouver des motifs conscients à tous nos actes. Ces actes traduisent plutôt un conflit de nos instincts ou désirs inavoués. La conscience est également influencée par la société. En accroire Marx et Engels dans l'idéologie allemande, la conscience est d'emblée un produit social et le demeure aussi longtemps qu'il existe des hommes, c'est-à-dire la conscience est toujours déterminée de l'extérieur. C'est Freud qui, véritablement, va bouleverser l'idée selon laquelle l'homme contrôle ses pensées. Le concept d'inconscient suppose que notre vie psychique est, pour une grande partie, dictée par des forces à notre insu. Ce qui permet de dire que l'homme est étranger à lui-même, il ne se connaît pas et ne maîtrise pas grand-chose de son esprit. Si la majorité de ses pensées et de ses actes lui échappent, l'homme peut-il être tenu responsable de ce qu'il pense et de ce qu'il fait? Comment une telle mutation de la conscience à l'inconscient a-t-elle bien pu s'opérer? Grand 2 l'inconscient, portée et limite. 1. La théorie de l'inconscient de Freud avant Freud. Des philosophes comme Leibniz, Spinoza et Nietzsche ont été les précurseurs d'un inconscient psychique. Freud sera plus tard le porte-étendard de cette philosophie. Il considère que l'inconscient est constitué de souvenirs et de sentiments éprouvés au cours de l'enfance, y compris les pulsions sexuelles ou libido. La première théorie qu'il élabore en 1900 présente le psychisme humain sous la forme d'une topique constituée de la conscience, du préconscient et de l'inconscient.